Salut à tous, c'est Woody, on est le 29 juin 1989 et vous écoutez Capsule Pod. On commence gentiment à se préparer pour Interville en ce début d'été ensoleillé. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il va s'agir de chevalier en slibard, de vénusien en safari, de karaté cyberpunk, de tension sociale, de Javel au paradis, d'un des meilleurs albums qui m'ait été donné d'écouter, d'une Juliette qu'on aime et d'un crâne ancestral qui rend tout puissant. Vous êtes prêts à vous laisser porter par le programme? C'est parti.
Vous ne connaîtriez pas un bon psychologue?
Dites-leur à Paris.
Vous l'avez adoré sur arcade, le fameux Ghost and Goblins arrive enfin chez nous sur console Nintendo. Sorti en 85 par Capcom sur borne sous le nom de Makaimura, il aura fallu pas moins de 3 ans pour que la version console fasse le chemin depuis le Japon dans nos salons. En attendant, on a pu se contenter plus ou moins de versions low cost du jeu, notamment sur Commodore 64 ou encore Amstrad CPC, où le jeu est d'ailleurs amputé de 2 niveaux. Ou mieux encore sur Commodore 16, où 4 des niveaux sont passés à la trappe, mais je vous rassure, sur Nintendo, on a droit à l'expérience complète. Ghost and Goblins est un jeu de plateforme où vous contrôlerez le valeureux Arthur, qui devra faire face à un bestiaire classique de romans d'horreur tels que des zombies et autres démons, pour sauver sa princesse retenue par le roi démon Astaroth. Il sera protégé par une armure lourde qui volera en éclats à la moindre attaque, laissant le preux Arthur avec un simple caleçon à poids en guise de protection. Vous pourrez ramasser une armure dorée qui vous offrira une protection supplémentaire, ainsi que des armes secondaires pour remplacer votre lance, comme les dagues ou la hache. Vous allez vous arracher moult touffes de cheveux devant ce jeu à la réputation difficile, même si, en vérité, son seul vice injuste réside dans sa conclusion. Après avoir défait le boss de fin, vous aurez droit à ce fabuleux message, rédigé dans un anglais non euclidien.
This room is an illusion and is a trap devised.
Je crois qu'il veut dire
devised by Satan. Go ahead dauntlessly, make rapid progress.
Vous indiquant en gros que vous avez été berné par une illusion de Satan et qu'il va vous falloir retaper tout le jeu sur un second run dans une difficulté accrue pour avoir droit à la vraie fin du jeu, que du bonheur. Côté critique, malgré un scrolling qui manque de fluidité, on lui trouve de superbes graphismes et animations qui rendent honneur à une esthétique aussi sinistre que loufoque. On salue également la réactivité des contrôles, la qualité de la bande-son et des bruitages. En parlant de bande-son d'ailleurs, on retrouve à la composition Harumi Fujita, sur qui on va garder une oreille attentive puisqu'elle nous a gratifié de la bande-son de Bionic Commando, mais aussi et surtout du formidable Strider sorti en arcade en mars dernier. Pour l'heure, voici un extrait de Ghost and Goblins sur Nintendo. On va s'intéresser maintenant au jeu qui fait la couverture du mois chez Tilt et Gen 4, Blood Money. Les anglais de chez Psygnosis nous avaient déjà régalé avec Menace, les voici qui remplissent un an plus tard grâce au talent de Dave Jones avec DMA Design pour un nouveau shoot'em up de qualité. Jouable seul ou à deux, Blood Money nous propose un shmup quelque peu différent puisqu'il nous propose des niveaux très longs que vous allez être amené à explorer avec différents véhicules pour récolter de l'argent sur des vagues d'ennemis et défaire le boss de fin de niveau pour atteindre la sortie. Vous aurez l'opportunité au sein des niveaux de vous arrêter dans des boutiques d'équipement pour dépenser votre pognon, et débloquer des options qui vous faciliteront l'exploration à la manière d'un Fantasy Zone. Le jeu vous propose de choisir entre 4 planètes, représentant les niveaux du jeu aux environnements et véhicules variés. Giba, qui met à l'honneur la technologie, où vous contrôlerez un hélicoptère, Grone, la planète aquatique que vous explorerez en sous-marin, Shrek, la planète enneigée en jetpack, et Snuff, la planète volcanique en vaisseau spatial. Vous serez amené à choisir vous-même votre progression après une cinématique animée incroyable en 3 dimensions d'exploration spatiale à travers les rochers, se terminant sur une vue superbe d'une planète bleue accompagnée d'une musique hip-hop blindée de voix digitalisées. Dès le départ, ça impose le respect et surtout, ça nous intrigue. On a envie de savoir quelle histoire épique se cache derrière cette intro. Du coup, je vais me permettre de citer Gen 4, qui nous raconte si bien l'incroyable pitch du jeu. Vous jouez le rôle de Spondulix, jeune Vénusien en transit sur la planète Thanatopia, pour passer vos examens de comptabilité. Vous ne rêvez qu'à une chose, participer au safari extraterrestre organisé par la société C7. Malheureusement, vous ne disposez pas des 100 dollars nécessaires pour l'inscription. Mais étant d'un naturel futé, vous avez ignoblement menti à votre mère pour obtenir un virement postal. N'écoutant que ses sentiments, elle s'exécuta et vous envoya 200 dollars. Dès lors, votre rêve pouvait se réaliser et vous alliez acheter sur le champ un billet pour le safari. Donc voilà, douche froide, et c'est pas Gen 4 qui a pris de la drogue, c'est véritablement ça, l'histoire du jeu. En tout cas, la critique est assez enthousiaste concernant Blood Money. Le scrolling multidirectionnel est jugé parfaite fluidité. Les graphismes d'une qualité irréprochable avec d'énormes sprites détaillés et des musiques délirantes. On doit d'ailleurs les bruitages à David Whittaker, à nouveau, que l'on avait déjà salué pour son travail sur Xenon 2. On doit la musique à Ray Norrish, dont le seul travail connu à l'heure actuelle est un jeu du nom de Baal, sorti également chez Psygnosis l'année dernière. On va s'écouter un extrait de Blood Money avant de passer aux salles obscures.
Blood Money. There's a whole lot more coming.
The biggest unanswered question is where is the money?
There's a whole lot more coming.
The biggest unanswered question is where is the money?
There's a whole lot more coming.
Where is the money? Question is, where is the money? Where is the money?
Sont incroyables, mais cette fois John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Assez plaisanté.
Vous qui êtes friand de karaté et de science-fiction, Ce mois-ci, vous allez être comblé puisque vous pourrez vous rendre en salle pour aller voir le dernier film d'action avec Jean-Claude Van Damme, Cyborg. Sorti chez nous 2 mois après les États-Unis, Cyborg est un film cyberpunk d'arts martiaux réalisé par Albert Pion, un réalisateur qui ne s'est pas vraiment illustré par ses précédentes productions. On lui connaîtra peut-être le film L'Épée Sauvage ou Sword and Sorcerer de 1982. Jean-Claude Van Damme, quant à lui, est à la mode en ce moment. Après l'excellent Bloodsport l'année dernière, il nous revient cette année dans cette production de science-fiction loufoque, mais aussi avec un autre film d'arts martiaux plus tard dans l'année, Kickboxer. Et puisque vous avez adoré l'histoire palpitante de Blood Money, voici celle de Cyborg. Une épidémie de peste décime la population américaine au début du 21e siècle. Le chaos ambiant permet l'émergence de gangs de bandits qui sèment la terreur. C'est alors que Gibson Rickenbacker, un homme au passé douloureux, sera amené à sauver Pearl Prophet, une femme mi-humaine, mi-robot, possédant des informations permettant de mettre fin à l'épidémie. Elle est cependant retenue par l'infâme Fender Tremolo, un affreux personnage cherchant à tirer profit du remède, s'avérant être également l'objet de la vengeance de Gibson Rickenbacker. Déjà vous l'aurez remarqué, les noms des personnages sont inspirés de marques d'instruments de musique, partant du personnage de Jean-Claude Van Damme qui s'appelle sobrement Gibson Rickenbacker, Gibson étant une marque de guitare mondialement réputée, au même titre que Rickenbacker, connue notamment pour la légendaire basse Rickenbacker 4001, manié d'une main de maître par le regretté bassiste de Metallica, Cliff Burton. Mais d'autres marques sont également représentées, par exemple pour Fender Tremolo, ou encore Marshall Strat, pour les amplis Marshall et le modèle Stratocaster de Fender. Ou encore Pearl Prophet, Pearl étant un fabricant d'éléments de batterie, et Prophet, de formidables synthétiseurs, pour ne citer que. Au départ prévu pour être une suite au film Les Maîtres de l'Univers de 1989, entendez par là Musclor, avec Dolph Lundgren, le projet a été revu lorsque la société de production a décidé de ne pas payer à nouveau la licence à la société Joe Mattel. Un deal était aussi en cours pour en faire un film Spider-Man, projet qui a également capoté avec Marvel. Le réalisateur a finalement décidé de créer Cyborg en intégrant les 2 millions de dollars de décors et costumes qui avaient déjà été conçus et ainsi amortir le coût de production de ce film à petit budget au scénario écrit en un week-end et qui s'est tourné en seulement 24 jours. Vous vous en doutez, les critiques n'ont pas vraiment encensé le film, mais il fait actuellement un carton au box-office, un succès probablement dû à la popularité grandissante de Van Damme, mais avis qu'on sera amené à le revoir régulièrement à l'écran ces prochaines années. Pour finir, la bande-son est signée Kevin Bassinson, dont c'est la deuxième œuvre connue sur grand écran après Police Story, un film policier hongkongais avec Jackie Chan, sorti il y a 2 ans chez nous. Voici un extrait. Encore un sujet qu'on a survolé le mois dernier pour le Festival de Cannes, il était en concours pour la Palme d'Or mais ne l'a pas remporté. Son réalisateur Spike Lee est furieux, mais le film poursuit sa petite vie en salle avec un très gros succès critique. On va bien sûr s'intéresser à Do the Right Thing. L'histoire se passe à New York. En cette journée qui s'annonce comme la plus chaude de l'année, les tensions sociales sont palpables dans le quartier populaire où vit Mookie, un livreur de pizza afro-américain. Il travaille pour Sal, un italo-américain travaillant avec ses deux fils. L'un d'entre eux, Pino, est ouvertement raciste et déteste Mookie. La tension va monter suite à un conflit d'idées autour de la diversité ethnique et du racisme, escaladant à un incident qui va déclencher une émeute. Spike Lee joue lui-même dans son film où il incarne Mookie. Pino, joué par John Turturro, est accompagné au casting de Danny Aiello, mais on peut également retrouver Samuel L. Jackson sous les traits de l'animateur radio Mr. Senior Love Daddy, présent en toile de fond pendant tout le film. La bande originale est composée par Bill Lee, le père de Spike, entre autres morceaux sortis chez Motown, le fameux label mettant à l'honneur de nombreux artistes afro-américains. Il a composé jusque-là les OST des trois précédents films de son fils. On remarquera également la présence du Public Enemy, un groupe de hip-hop américain très engagé politiquement. La chanson Fight the Power a été composée véritablement comme thème musical pour le film. Le groupe y incorpore de nombreuses références à la culture afro-américaine, notamment à James Brown. Elle est construite également autour du vocabulaire que l'on peut entendre dans les églises protestantes, détourné pour appeler à la révolte. Le troisième couplet attaque directement les icônes américaines blanches telles que Elvis Presley ou John Wayne. Une chanson en somme très représentative des thèmes graves abordés dans le film, assez proche de la réalité des banlieues que l'on pourrait trouver de nos jours dans les quartiers populaires des grandes villes américaines, jugées plus tôt.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you projects for 400 years if you check.
Don't worry, be happy.
Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it.
Let's get this party started right.
Right on.
Come on.
What we got to say.
Yeah.
Power to the people. No delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be.
Fight the power.
Avant d'entamer notre rubrique Top 50, on passe la main à notre sponsor.
Elle et moi, on ne s'entendait plus aussi bien qu'avant. Pour tout dire, ça commençait sérieusement à chauffer. Et puis, on s'est décidé à en parler.
Noroto, pour entretenir la passion entre votre voiture et vous.
Et c'est reparti.
T'es à 10 sur ta guitare, alors qu'est-ce que tu fous, hein? Hein?
Je sais pas.
Tu fais rien. Tant pis, là, il va jusqu'à 11.
Cette semaine, c'est toujours Avalanche avec Johnny Johnny Come Home qui squatte la première place, alors revenons aux titres qui font leur entrée dans le top 50. Jason Donovan se hisse directement à la 35ème place avec Too Many Broken Hearts, tandis que Phil Collins revient avec un remix de In The Air Tonight. Les Gypsy King arrivent à la 44ème place avec Soy, qui ne doit pas faire référence à de la sauce soja, j'imagine, et enfin Paul McCartney débarque en fin de classement avec My Brave Face. Et on passe directement au sujet du mois avec la sortie du tout premier album d'un groupe qui s'annonce prometteur, Nirvana. Ce premier album portant le doux nom de Bleach, en français ça donne Javel, a été enregistré au début de l'année pour un prix colossal de 606,17$ qu'un pote du groupe du nom de Jason Everman a réglé de sa poche juste parce qu'il est fan du groupe. Notez d'ailleurs qu'il figure sur la pochette en tant que second guitariste alors qu'il n'a jamais joué sur l'album, le groupe étant composé de 3 membres, Chris Novoselic à la basse, Kurt Cobain au chant et à la guitare, et un batteur où ça se complique pas mal. Au début du groupe, il y a eu Bob, puis il a été remplacé par Aaron, mais Chris et Kurt ont déménagé, alors ils en ont cherché un autre et sont tombés sur Dale. Mais Dale, à un moment, il se tire, du coup ils prennent Dave. Sauf que ce dernier termine en tôle, mais ça tombe bien parce qu'Aaron est là à nouveau. Sauf qu'entre temps, Chad a répondu à l'annonce, et c'est lui qui termine sur l'album. Mais pas que, parce que Dale aussi, sur quelques morceaux. Le nom Bleach vient d'un poster que Kurt Cobain a vu à San Francisco, qui conseillait aux toxicomanes de nettoyer leurs seringues à la Javel pour endiguer la propagation du sida. L'album a été enregistré au Reciprocal Studio de Seattle, et il a été notamment produit par l'ex-batteur de Soundgarden. Il fait partie d'un mouvement musical que l'on appelle le grunge, terme décrivant un style hybride de metal et de punk, caractéristique des groupes de Seattle comme Sonic Youth, Soundgarden ou Mudhoney. La sonorité de Bleach tire énormément de l'ambiance que peut dégager le groupe en live, et c'est complètement l'objectif premier du groupe lorsqu'ils l'ont enregistré. Les paroles ont été écrites à la va-vite, les guitares ont une disto à fond, la basse est sourde et la batterie énergique. On y retrouve des influences de Led Zeppelin, Black Sabbath ou encore Metallica. Petit aparté rapide, on va se garder de côté un disque sorti le même jour que Bleach, premier album d'un groupe qui, m'est avis, va également avoir droit à un bon coup de projecteur ces prochaines années. Il s'agit de l'album éponyme des petits gars de The Offspring. Faites-moi confiance, on va à nouveau entendre parler d'eux. En attendant, c'est parti pour le morceau About a Girl de Nirvana.
Have a
On va maintenant s'attaquer à un album qui s'est hissé dès la première écoute dans le panthéon de mes albums préférés de tous les temps, The Real Thing. Et vous n'imaginez pas la joie avec laquelle j'aborde ce sujet. Troisième album du groupe américain Faith No More, il voit l'arrivée d'un nouveau chanteur charismatique, Mike Patton, tout droit sorti du groupe de funk expérimental Mr. Bungle. Il apporte énormément d'énergie à ce groupe à l'univers déjà excentrique, mêlant thrash metal, hip-hop, hard rock, funk et même du jazz. L'ancien chanteur, Chuck Mosley, présent sur les deux précédents albums après avoir remplacé Courtney Love, a été mis à la porte avec fracas suite à de nombreux soucis de disputes, bagarres et divergences musicales sur la direction qu'il souhaitait pour le groupe. Mike Patton donne un nouveau souffle au groupe avec une voix plus mélodieuse et plus énergique. Il a écrit l'intégralité des paroles de l'album en moins de deux semaines, ce qui explique le côté confus et abstrait des thèmes abordés. C'est le cas pour le futur tube interplanétaire, oui je l'annonce, la chanson intitulée « Epic ». Les paroles évoquent un « hit » ou « ça » en français, qui n'est jamais révélé, donnant libre cours à l'interprétation de l'auditeur. On peut cela dit facilement deviner de quoi il en retourne en écoutant attentivement les paroles dont voici un extrait en français. C'est vivant, effrayé, un mensonge, un péché. C'est magique, c'est tragique, c'est une perte, c'est une victoire. C'est sombre, c'est humide, c'est une souffrance amère. C'est triste, c'est arrivé et c'est une honte. Tu le veux mais tu ne peux pas l'avoir, c'est sur ton visage mais tu ne peux le saisir. Voilà, il vous suffit d'un esprit mal placé et ça suffit pour trouver une interprétation qui marche. Notons qu'aucun single n'est sorti à ce jour, mais l'album regorge de titres fabuleux qui pourront faire l'affaire très prochainement. Les chansons sont variées, tant au niveau de l'ambiance que des styles représentés, parfois même au sein d'une seule chanson. Le morceau éponyme a une des meilleures intros qui m'ait été donné d'entendre, on passe de quelque chose de plus dansant à des riffs métal extrêmement efficaces, vous trouverez sans aucun doute quelque chose à votre goût dans The Real Thing. On notera d'ailleurs la présence d'une excellente reprise du titre War Pigs de Black Sabbath, un peu plus péchu que l'original, où Patton rend un bel hommage à Ozzy Osbourne, montrant qu'il n'a clairement pas à rougir du Prince of Darkness. Je vous laisse plonger sans plus attendre dans l'album avec un de ses morceaux les plus efficaces, Epic. It's out of sight. You can touch it. Aujourd'hui, préparez-vous à une journée bien remplie niveau programme jeunesse. S'ajoute aux dessins animés que l'on a évoqués dans les épisodes précédents, Muscleman, Liveman et Georgie le Secret dévoilés sur TF1. Mais aussi et surtout, les maîtres de l'univers, BCBG, Les Petites Canailles, Zoofoli, Malvira, Transformers, Tom et Jerry, Popeye et Corsair et Flibustier dans la nouvelle émission Eric et compagnie sur Antenne 2, dont la diffusion a commencé en début de semaine. Ce mois-ci, on va se concentrer sur un animé diffusé ce matin dans le Club Dorothée, Juliette Je T'aime. On en parlait dans l'épisode 3 lors de notre sujet sur l'AMU. Juliette Je T'aime est l'adaptation d'animé du deuxième manga de Rumiko Takahashi intitulé Maison Ikkoku. Démarré en parallèle de l'AMU, ou Urusei Yatsura dans sa version originale, il se termine tout de même un an avant son aîné, après seulement 15 tomes. L'adaptation animée a été diffusée sur Fuji TV, de 1986 à 1988, pour un total de 96 épisodes. La diffusion française est quant à elle exclusive au Club Dorothée depuis septembre dernier. Un programme de choix pour l'émission de TF1, puisque le succès est au rendez-vous, sans surprise, Maison Ikkoku étant réputée comme une des meilleures comédies romantiques en manga à ce jour. L'histoire raconte le quotidien loufoque de la pension des Mimosa, après l'arrivée de sa nouvelle responsable, Juliette, Kyoko Otonashi dans le manga, une magnifique jeune femme déjà veuve à 20 ans. Dès qu'il l'a vue, Hugo l'étudiant, ayant raté ses concours d'admission à l'université, appelé Yudaku Godai dans la version originale, tombe éperdument amoureux d'elle et devra rivaliser avec François, ou Shun Mitaka, un entraîneur de tennis séduisant, riche et bien éduqué, également intéressé par la jeune femme. On y a eu droit pour signer Cat Size, souvenez-vous de l'épisode précédent, le générique de Juliette Je T'aime a lui aussi été modifié pour la diffusion française. C'est à nouveau un montage d'extrait de la série dont on a droit en lieu et place d'un magnifique générique crayonné et coloré dans la version originale. Un choix moins justifiable que pour Cat Size, celui de Maison Ikkoku ne contenant aucun plan particulièrement gênant pour une diffusion française. Une censure plus évidente a lieu cette fois-ci au sein même de la série, où les nombreuses références à l'alcool ont été modifiées voire supprimées. L'alcoolisme de certains personnages étant un ressort comique récurrent dans la série, certaines scènes en deviennent incompréhensibles ou incohérentes, comme lorsque de lourds états d'ébriété sont dus à une consommation excessive de limonade, on a vu mieux niveau finesse. La bande-son est en partie due au compositeur Kenji Kawai, dont c'est le deuxième travail pour la télévision japonaise. Le générique français est chanté par Bernard Minet et composé par Jean-François Pori et Gérard Salès. Notons que ce dernier n'est pas un débutant, il a eu l'occasion d'accompagner Sylvie Vartan au clavier en 77 lors de ses tournées, c'est également un bon copain de Johnny Hallyday. Dorothée a d'ailleurs interprété une chanson en son honneur, intitulée « Le Grand Gérard » en 84 sur l'album « Qu'il est bête ». Il a composé une multitude de thèmes pour des publicités, il a été chef d'orchestre à Monaco à l'Eurovision 79, mais il a surtout composé un nombre colossal de chansons pour Dorothée et la télévision française avec son associé, le fameux Jean-François Pori, que l'on connaît également sous son véritable nom, Jean-Luc Azoulay. Écoutons son travail sur le générique de « Juliette, je t'aime ».
Pension des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elle est arrivée un jour, et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tout ce qui l'habitait. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. À la pension des Mimosas, Hugo est amoureux, Stéphane l'est aussi, que va-t-il se passer? Car Juliette les aime tous les deux, ils sont si différents, elle veut qu'ils soient heureux dans le monde des grands. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. À la pension des Mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas.
Aujourd'hui, vous aurez aussi l'occasion de voir un épisode des Maîtres de l'Univers sur Antenne 2. Il s'agit d'un dessin animé américain de 1983 de 130 épisodes, connu là-bas sous le nom de He-Man and the Master of the Universe, produite pour faire la promotion des figurines Mattel, tout comme Jace et les Conquérants de la Lumière dont on a parlé récemment. Elle est diffusée en France depuis janvier 84 sur Antenne 2, autant dire que vous en avez probablement fait le tour aujourd'hui, même si, pour une étrange raison, la totalité des 130 épisodes n'a pas été doublée en français à l'heure actuelle. L'histoire se passe sur Eternia, un monde mêlant héroïque fantasy et science-fiction. Dans le Château des Ombres, le sorcier malfaisant Skeletor rêve de contrôler l'univers. En même temps, quand tu t'appelles Skeletor, ça doit pas être facile d'être le gentil du dessin animé. Bisous au passage à Sinestro dans Green Lantern, pour qui c'est la même galère. C'est alors que le prince Adam brandit son glaive magique en disant « Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante !» Et bim, le voilà transformé en Musclor, l'homme le plus fort de l'univers. En anglais, il s'appelle He-Man, qui se traduirait chez nous par « lui-homme ». D'un coup, ça fait moins cool, alors on l'a appelé Musclor. Il devient alors le héros qui aura la lourde charge de sauver l'univers des méchants. Vous voilà devant un schéma de dessin animé classique de gentil costaud contre les méchants très méchants pour sauver l'univers. Mais à sa sortie en 84, il s'agissait du premier dessin animé mettant en scène un héros musculeux autorisé à frapper ses adversaires dans un dessin animé pour enfants. Il a tout de même défrayé la chronique quant à son objectif premier de publicité déguisée pour une série de jouets. Chose qui, aujourd'hui, est assez courante, comme on a pu le voir. Une série dérivée basée sur le personnage de She-Ra, que l'on n'a pas traduit par El-Ra, mais qu'on n'a pas nommé Musclette non plus, a été diffusée à partir de 85 aux États-Unis. Elle servait également à promouvoir une série de jouets dérivés de la collection originale. Elle a été diffusée sur Recrea 2, sous le nom de She-Ra, la princesse du pouvoir, à partir de 1986. La bande-son est composée par Chucky Levy et Haïm Saban, un nom qui vous dit probablement quelque chose puisqu'il est en toile de fond d'une grande partie de vos programmes jeunesse préférés. Israélien d'origine égyptienne, Saban se fait connaître pour des bandes originales de programmes comme Goldorak, Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or, Dallas, Starsky et Hutch ou encore L'Homme qui tombe à pic où il va même jusqu'à pousser la chansonnette. Il a fait un petit tour par l'Eurovision en 83 où il a composé la chanson qui a fait gagner le Grand Prix au Luxembourg. Et sinon vous l'avez déjà entendu si vous avez regardé un jour Jace, Mask, Alf, Denis la Malice, Les Popples, Pole Position, Les Mini-Pousses, Ulysse 31 ou encore Les Entrechats. Autrement dit, c'est pas un Mickey. Il est marrant d'ailleurs de noter qu'une partie de la bande-son des Maîtres de l'Univers partage des passages entiers avec la bande-son des Mystérieuses Cités d'Or. Le thème musical est quant à lui chanté par Alain Chauffour, ancien animateur pour Recrea 2 aux côtés de Dorothée. Il avait d'ailleurs été contacté par Jean-Luc Azoulay pour co-présenter le club Dorothée, mais il avait alors décliné la proposition. A défaut de le voir tous les matins, on va l'écouter pousser la chansonnette pour cet extrait de la bande-son des Maîtres de l'Univers.
Adam, le prince d'Eternia, par la puissance de son glaive magique, devient pour aller au combat le grand Musclor au pouvoir fantastique.
Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié.
Cible Musclor.
Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié.
Musclor.
Musclor.
tigre domestique. La belle Tila est le maître d'armes, la sorcière au pouvoir magique. Sont avec muscles quand sonne l'alarme.
Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié.
Ancestral. Je détiens la force toute puissante.
Il n'y aura pas de dernier journal ce soir en raison de la grève, bien sûr. C'est donc après cette émission de jazz que se terminera notre programme. Bonne soirée.
Et voilà, l'émission est déjà terminée et il va vous falloir à nouveau patienter un petit mois avant d'avoir une nouvelle dose de news. Alors terminons sur le programme TV du jour. Vous allez pouvoir passer votre matinée sur Antenne 2. Après avoir découvert la nouvelle émission Jeunesse Eric et compagnie, vous pourrez patienter jusqu'au repas de midi avec La Fête à la Maison. Ou sinon, si vous êtes plus branché poil, vous avez Les 30 millions d'amis à 10h40 sur TF1. Pas grand chose à regarder l'après-midi, entre téléfilms et séries dramatiques comme Falcon Crest, il faudra dormir devant le golf sur FR3 avant de faire votre choix sur les programmes jeunesse de la fin d'après-midi. Il y aura bien La Roue de la Fortune à 19h30 pour engloutir votre repas, regarder Radio Denver et tenter de vous intéresser au film Le Vieux Fusil de Robert Enrico. Non, je déconne, vous aurez bien une VHS qui traîne. Quoi qu'il en soit, merci encore d'avoir suivi ce programme. Si vous me découvrez sur cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Et qui sait, si quelqu'un tombe là-dessus dans 30 ans, il aura peut-être envie de le partager à ses potes, ce serait marrant. Allez, salut !